Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc ce matin, comme annoncé, on va reprendre notre chemin avec Jésus, dans les pas de Jésus, au travers l'évangile de Marc. Après avoir été encouragé pendant 3 semaines à prendre ses bonnes résolutions. Et maintenant, on reprend. Et ce matin, je voulais parler quelque chose que tout le monde connaît. Et plus on vieillit, plus on connaît. J'ai parlé des apparences, de l'apparence. L'apparence de paraître autre chose. On est dans une société de l'apparence. Je sais pas vous, mais si vous regardez autour de vous, dans le monde dans lequel on vit, tout n'est qu'apparence. Plus on apparaît bien, plus on est suivi, plus on est tweeté, plus on est suivi sur Insta, plus on est, enfin, tous ces nouveaux trucs. C'est l'apparence. L'apparence qui attire. L'apparence de la richesse, l'apparence de la beauté, l'apparence de la connaissance, tout est apparence. Et cette apparence provoque des fois bien des difficultés. Une jeune fille de 16 ans avait écrit un livre, pas seule, hein, sur l'apparence qu'elle se posait sur Instagram, des photos toutes simples qu'elle mettait 3 heures à porter. Et ça a brisé son équilibre psychologique. Et elle a alerté une des voix qui s'est levée par rapport à ce qu'elle vivait. Et qu'elle a alerté autour d'elle, les jeunes qui créaient ce genre de choses. Elle a eu la lucidité de pas tomber, mais aujourd'hui, malheureusement, on est tous touchés par les apparences. Aucune classe n'est épargnée. Tout le monde vit d'apparence. Et quand ces apparences se brisent, eh ben, on découvre finalement qui on est. Vivre en apparence est parfois difficile. Et les apparences sont trompeuses, c'est pour ça qu'on peut avoir une foi d'apparence. Ou une foi du cœur. Et si je vous dis, alors je sais pas si on le voit bien, c'est si vous pouvez me dire ce que c'est derrière, si vous arrivez à voir, un bateau, oui, sur l'image, et de l'autre côté, voilà, lune, voilà, une planète. Alors là, ça c'est des apparences trompeuses, hein, parce qu'en fait, ça c'est un lac, vu dans une longue vue. Donc en fait, c'est un bout de lac. Ça sortait mieux sur mon ordinateur. Et donc finalement, c'est pas une planète, hein. C'est un morceau de lac qu'on a pris en photo par une longue vue. Et ça, c'est un trou dans un canapé en cuir. Voilà. Les apparences sont trompeuses. Et aujourd'hui, avec Photoshop, on se méfie toujours des photos. On est d'accord. Hein. Et là, pareil, pour dire les apparences, alors ça, c'est des cas un peu plus graves. Là, on a, en haut, on a Ben Johnson, en 88, qui a gagné les JO de Sydney. Il gagne la médaille d'or. Tout le monde est content. Enfin, surtout au Canada, il est décerné une grande médaille. En dessous, on a Lance Armstrong qui gagne son 4e ou 5e Tour de France. Et après, malheureusement, 3 jours après, pour Ben Johnson, on a découvert qu'il était drogué. Alors qu'il avait nié se droguer toute sa vie. Non, non, moi je suis un sportif sans drogue. Et on lui a retiré sa médaille. Et Lance Armstrong, pareil, en 2012-2013, il a avoué s'être drogué après avoir nié pendant quasiment 10 ans, il a nié s'être drogué, et il a avoué, et il a été déchu de ses 7 titres. Et pas que les 7 titres de Tour de France, tous les autres aussi, qu'il a gagné depuis 99. Et là, on a la déchéance de quelqu'un qui se donnait une apparence propre, une apparence, non, non, je ne suis pas celui qu'on dit, je lutte, et en finalement, quand ça tombe, quand ça brise, c'est des personnes qui ne sont jamais remises de ce genre de chute. Et nous, pourquoi on parle de ça? Parce que nous, on a des apparences aussi. Est-ce que je suis ce que je suis? Est-ce que je suis ce que je dis? Ou bien je suis une image trompeuse de ma vraie nature? Est-ce que j'ai une foi d'apparence? Dans le sens qu'on parlait la semaine dernière, j'ai coché les cases, je vais au culte, je suis chrétien. Je dis bonjour à mon voisin, je suis chrétien. Et des fois, de temps en temps, j'aide un peu, je suis chrétien. Et j'ai que des cases à cocher, et j'ai une foi d'apparence. Ou j'ai une foi de cœur. Oui, j'ai une foi de cœur, parce que dans l'Église, c'est ça, hein. On est parfois les mêmes. On peut avoir des apparences derrière. Parfois, même aujourd'hui, hein, on le partageait la semaine dernière, le fait d'être au culte, bah, fait de nous des chrétiens. On a dans un inconscient, parfois, je suis chrétien parce que je vais au culte. Je suis chrétien parce que mes parents étaient chrétiens. Donc, je suis chrétien. Je lie ma présence au culte à ma foi. Et Irino d'Apozzo, qui est un évangéliste du XXe siècle, qui est décédé maintenant, il est décédé en 1974, mais il aimait bien parler de sa foi, et il interrogeait dans le train, parce qu'il se promenait souvent en train, Et dans cette anecdote, il lisait la Bible. Et il dit, oui, je suis chrétien, je lis la Bible, parce qu'on l'avait interrogé. Et après, il a posé la question autour de lui, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous lisez la Bible? Alors, ils ont dit, non, je suis pas chrétien. Moi, je lis pas la Bible. Et puis, il y a une femme qui s'offusque. Oui, oui, je suis chrétien, monsieur. Ah, je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Moi, je joue de l'orgue le dimanche matin. C'était sa définition de la chrétienté. C'était sa définition parce que elle était chrétienne parce qu'elle jouait de l'orgue. Elle jouait de l'orgue au temple. Elle était chrétienne. Et il dit, mais vous en parlez pas? Ah, non. Parce que c'est les chrétiens, comme appelait aussi un autre prédicateur, les chrétiens sous-marins. Qu'on ne reconnaît que le dimanche. Les chrétiens sous-marins. La semaine, on peut pas savoir qu'ils sont chrétiens. On leur dit, wow, qui c'est ces gens? Mais le dimanche, ils sont là. Et là, voilà pourquoi, on parle de ça, parce qu'on arrive dans ce matin, Bible en main, on va voir ce que Christ en pense de cette foi. Et c'est pour ça qu'on va contextualiser, mais avant, je vais prier. Seigneur, merci parce que tu connais nos cœurs, tu connais nos apparences, mais au travers de ta parole ce matin, tu veux nous alerter. Parce que toi, on ne peut pas te cacher. On ne peut pas se cacher de toi, Seigneur. On peut construire une identité, on peut construire une foi, on peut construire nos raisonnements, mais toi, tu vois tout. Et tu perces le secret de nos cœurs. Alors, travaille-nous, qu'on puisse laisser ce qui ne va pas, Seigneur. Faire tomber les masques et nous montrer tel que nous sommes, avec nos forces, nos faiblesses, et tel que toi, tu nous vois. Amen. Donc, on prend le chapitre 7, que je vais lire. Le 7, verset 1 à 16. On va lire juste le début, 1 à 5. Marc 7, verset 1 à 5. Des pharisiens et des spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquaient que certains de ses disciples prenaient le repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettaient jamais à table sans avoir soigneusement lavé leurs mains. Ils observaient ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangeaient pas sans avoir fait leur ablution. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observaient, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. Les pharisiens, les spécialistes de la loi, demandèrent donc à Jésus « Pourquoi tes disciples ne se conforment pas à la tradition de nos ancêtres ? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Donc déjà le contexte. On ne peut pas commencer un texte si on ne le contextualise pas. On a vu, on a suivi depuis le début de Marc, Jésus, il a une certaine renommée qui se répand comme une traînée de poudre. Jésus, celui qui arrive avec sa propre autorité. Jésus, celui qui purifie l'impur. Celui qui bouscule, parce que c'est le rabbin qui choisit ses disciples. C'est le rabbi itinérant qui va choisir ses disciples, alors que les disciples, normalement, ils choisissaient leur maître. Il choisit parmi des personnes que personne n'aurait choisies, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts. C'est l'inverse, voilà. Jésus, c'est celui qui commence un peu à faire parler de lui. Et c'est pour ça qu'on envoie des pharisiens de Jérusalem. Voilà, Jérusalem, il dit, bon, on va voir qui c'est cet homme, qui est ce prédicateur, qui est ce rabbi, qui est celui qui fait des miracles, et surtout, voilà, comment il se comporte. Partout où il allait, hein, c'est ce qu'il nous a dit, les malades étaient guéris, les foules se pressaient pour le toucher. Et donc, voilà pourquoi on va voir qu'est-ce qu'il en est. Il y a une nouvelle autorité. Il vient pas de Jérusalem, personne ne le connaît, il vient de Nazareth, y a-t-il quelque chose de bon? Donc ces pharisiens sont chargés par l'école du pharisianisme, une des écoles pharisiennes, de dire, va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe, et c'est pour ça qu'après ils viennent vérifier l'orthodoxie. Hein. Donc l'orthodoxie, c'est le caractère qui est conforme à leur doctrine. C'est-à-dire, est-ce que Jésus, est-ce que ce nouveau rabbin Yeshua, est-ce que celui-là, il fait comme nous on fait? Parce qu'on entend des choses qui sont pas très claires, donc on va aller voir, on est chargé de ça, hein. Ils viennent avec cette autorité. Et du coup, ils viennent aussi pour discréditer. S'ils ont la capacité de discréditer Jésus, ils sont tranquilles. Si on le discrédite, la foule va plus le croire. Si elle le croit plus, ça va retomber. Il y a aussi ça. Il y a aussi cette volonté de, la même volonté qu'animera Paul, d'avoir la justesse, de sauvegarder, j'allais dire, la pureté de l'orthodoxie telle qu'ils la voyaient eux. C'était pas forcément dans le sens, on veut, se bagarrer, on veut à tout prix venir chercher les ennuis. Non, ils voulaient aussi discréditer, parce qu'ils avaient peur que leur foi, elle se dilue dans toute la pensée qui existait déjà. savoir, hein, ça c'est quelque chose qui nous est inconnu, c'est que dans le judaïsme, les judaïsmes qui existaient, on voulait vraiment faire attention que la Torah devienne pas n'importe quoi. Donc voilà, il y avait des personnes qui étaient chargées de ça. Et les pharisiens, ils aimaient sincèrement Dieu. Faut pas croire que tous les pharisiens n'aimaient pas Dieu. C'est même l'inverse. Ils aimaient sincèrement Dieu. Ils pensaient vraiment lui plaire en faisant ces choses. Il y en avait bien sûr qui étaient des hypocrites. Bien sûr, il y avait des gens qui étaient mauvais. Mais il y avait vraiment une soif et ils étaient respectés pour ça par le peuple. Ils étaient respectés. On allait les voir pour régler les problèmes. Et les pharisiens, il y en avait partout. Alors ceux de Jérusalem étaient des fois un peu plus difficiles de cœur parce que eux, ils étaient plus près du pouvoir. Et c'est avec eux que Jésus aura les mots les plus forts parfois, dont ce texte-là, parce que oui, ils viennent de Jérusalem, donc ils n'ont pas les mêmes regards. Mais disons que leur sagesse et leur piété étaient connues, étaient un exemple pour le peuple. Il y avait quand même... Et ils avaient aussi cette vision, alors c'est un peu délicat, mais on peut en parler brièvement. Pour ceux que ça intéresse, on pourra en parler plus longuement après. C'est qu'ils avaient la vision de ce qu'on appelle du nomisme d'alliance, c'est-à-dire qu'ils ont été choisis. Voilà, ils connaissaient que Dieu les avait choisis, ils avaient fait une alliance avec Dieu. Mais pour rester dans cette alliance, ils devaient faire plein de choses. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le nomisme d'alliance. C'est-à-dire que si on les fait pas, ben on perd l'élection. Vous voyez, Dieu fait une partie, mais eux, ils devaient rester purs. Tant qu'ils se lavaient les mains et nettoyaient les bols. Vous voyez, c'est pas forcément pour embêter qui faisait ces choses. Et c'est pour ça pourquoi je fais un petit... Voilà, j'insiste un peu sur le contexte. C'est pour voir qu'ils sont venus dans une attitude... Non pas forcément, nous, la voie mauvaise, mais non pas forcément dans la destruction, mais dans le sens de la protection. Ils voulaient aussi protéger. Bien que effectivement, ils étaient, pour la plupart, bien attachés à ces choses. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il leur dit? Ils voient les pharisiens qui sont envoyés de Jérusalem, ils arrivent. Ils sont envoyés pour observer les disciples. Et qu'est-ce qu'ils voient? Les disciples n'observaient pas la tradition des pères. Et ça, ça les choque tout de suite. Les pharisiens, les spécialistes de la loi, demandent à Jésus. Au début, ils disent rien. Ils observent. Jésus les a vus arriver, hein. Ça, on se doute bien. Mais ils vont voir à Jésus, parce que Jésus, c'est celui qui est leur maître. Donc, on va voir le maître, on dit, tes disciples. Et donc, toi, tu ne fais pas ce que les pères font. Voilà, la pureté, l'état de pureté était primordial, hein, dans les judaïsmes du temps de Jésus. C'était vraiment pour être proche de Dieu. Il disait, on peut pas prendre un repas que Dieu nous donne sans nous laver les mains, il faut la pureté. C'est une bénédiction. On peut pas prendre ça avec des mains impures. Et aujourd'hui encore, hein, je suis allé, en préparant ce message, je suis allé sur le site du judaïsme, maintenant, s'il y en a plus qu'un, eh ben, ils le disent, il faut se laver les mains. Et il faut manger 60 grammes de pain, de matza. Ben, si on mange moins, on se lave pas. Si on mange plus, il faut se relaver les mains. C'est très protégé. Mais derrière, il y a le sens de bien faire les choses. Et c'était le minimum demandé par les traditions, par les maîtres, par les gens qui sont passés avant Jésus. Et ils disent, ouais, t'as pas fait ça. Pourquoi tu l'as pas fait? Les pères, ils sont importants. Et c'est un détail anodin. Et parfois, j'ai ce même regard sur mon frère et ma sœur. Pourquoi il fait pas comme moi? Pourquoi il fait pas comme moi? Si les chrétiens devraient faire ça, parce que les chrétiens font ça. Et si elle est chrétienne, pourquoi elle fait ci? Ah ben, à mon avis, lui, il n'est pas vraiment chrétien, parce que ça, un chrétien, il fait pas ça. Et parfois, on a ce même regard sur un truc anodin, que nous, on voit important à nos yeux, par rapport à notre culture, par rapport à comment on a été élevé. On dit, ah, si la personne fait ça, mon avis, elle n'a pas compris quelque chose. Je vais aller lui demander, mais souvent, on ne lui demande pas, puis on la juge. Parce que là, c'est pas des lois hein, de société, hein, c'est la loi des ancêtres dans le cas de Jésus, donc les lois de la tradition qu'il faut respecter. Et des fois, c'est la loi de nos cœurs, la loi de ce que nous, on prend assez important. On dit, tiens, s'il est comme ça, quand j'étais plus jeune, je fais tous ceux qui n'ont pas de cravate, ah ben, ils n'honorent pas Dieu. Ils viennent au culte, tout débraillé. Donc, pour les certains, mes frères qui ont des cravates, c'est bien. Voilà, parce que... J'avais grandi comme ça, je me dis, on peut pas être venir au culte, habillé n'importe comment, à mon avis, il a pas compris. Puis au lieu de lui dire, mon frère, ah, pourquoi t'habilles comme ça? Peut-être qu'il a pas, tout simplement, pas de cravate, ou peut-être qu'il supporte pas la cravate. Mais on juge, ah, à mon avis, ouais, il fait pas comme les autres. Il doit pas être chrétien. Et après, on peut mettre chacun ce qu'on veut, mais on l'a tous eu. Ce regard sur l'autre, qui, pour un détail anodin, va nous dire, il fait pas comme moi. Et comme il fait pas comme moi, eh ben, dommage. Il est pas vraiment, il a pas vraiment tout compris. et on aimerait bien les interroger. Pourquoi tu fais pas comme moi? On le fait pas souvent. Donc c'est pour ça que je dis, on faut pas juger, parce que souvent quand on lit ces passages, on juge les pharisiens, on dit, oh là là, ils ont fait tous ces kilomètres, oh là là, regarde comme ils sont mauvais. Quel mauvais homme avec leur cœur mauvais. Alors qu'on a fait pareil, en disant, hey, t'as vu, comme il est habillé celui-là, pas tout compris. Est-ce qu'on se fait avoir? On se fait avoir, on méprise finalement l'autre qui fait pas comme nous. Et là ils arrivent et ils disent, bah ouais, nous, on te reproche Jésus, et on te discrédite, et à travers ça, on discrédite ton message. Comme ça, on ça fait pas d'ombre à Jérusalem. On veut regagner la population qui est en train de s'éloigner, qui est en train de te suivre. Et on va montrer que ta religion, aujourd'hui, on dirait le mouvement du Nazaréen, eh ben, c'est un faux mouvement, ça, c'est un mouvement qu'il faut pas suivre. Faut revenir au vrai mouvement pharisien. Ils sont là pour ça, en fait. Ils rejettent la tradition, c'est grave. Alors c'est un piège, parce qu'il dit soit Jésus méprise la tradition des pères, et ça, en Israël, du temps de Jésus, c'est un truc à jamais faire, hein. Mépriser les pères qui ont posé les choses, c'est dire « waouh, ce gars-là, il méprise tout ». Et donc du coup, c'est dire « ben voilà, il faut pas le suivre, cet homme-là ne fait pas partie de la vraie Torah », ou soit il est obligé de reprendre les disciples devant tout le monde, et du coup il se soumet à Jérusalem, en disant « ouais, vous avez raison, je rentre dans le rang ». Je rentre dans le rang. Il y a aussi quelque part cette volonté, hein, je le cache pas, qu'ils sont pas tout blancs. Je dis juste qu'on se méfie, qu'on a les mêmes paroles. Et eux, ils viennent et ils lui disent ça. Alors, bah, Jésus va répondre. Et la réponse de Jésus, elle se fait pas attendre, hein. Ça, c'est la suite. Marc 7, 6, 7, 13. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé pour vous ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou sa mère ce dont j'aurais pu t'assister, Corban, c'est-à-dire offrande à Dieu, vous le laissez faire, vous ne laissez plus rien faire pour votre père ou pour votre mère, annulant ainsi la parole de Dieu pour votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Jésus, il va dénoncer sévèrement leur attitude. Il va dénoncer sévèrement leur attitude sans se laisser impressionner par personne, parce qu'il va parler de sa propre autorité, parce qu'il connaît ces personnes qui arrivent. Il les connaît même avant qu'elles arrivent. Et il est en train de leur dire « hypocrite ». C'est en plein dans le thème. Hein. La foi de l'apparence. Hypocrite. Et là, il remonte à Ésaïe. Donc, il respecte les pères. Il remonte à Ésaïe, il dit, ce peuple m'honore d'élèves, son cœur éloigné de moi. Et il remonte à Moïse, qui est un fondement du judaïsme. Donc, il utilise leurs propres armes contre eux. Parce que c'est pas lui qui témoigne contre les pharisiens qui sont venus, c'est les pères eux-mêmes qui sont en train de témoigner contre eux. Bien sûr, c'est Jésus qui les cite, avec une subtilité qui est la sienne. Mais il leur dit, il est écrit, et vous faites autre chose. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Torah que vous êtes censé défendre. Jésus va dénoncer sévèrement. Il profite pour dénoncer cette apparence qui se sont construites. Une apparence. L'apparence d'être pur. De manger avec des mains propres, des couverts propres, ça se voit, les gens le voient. L'apparence de faire des longues prières dans les rues, ça impressionne. L'apparence d'être au premier rang. L'apparence d'être celui qui est debout, qui est bien habillé. L'apparence d'être important. Mais le cœur, est-il purifié? Le cœur est-il purifié pour autant? Parce que Jésus, il cite les pères d'Israël, il cite les prophètes qui dénonçaient les apparences trompeuses du peuple. Un peuple qui venait rendre un culte à Dieu avec un cœur droit, mais finalement, il faisait rien de ce qu'il devait faire. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, hein, comment je viens au culte. Est-ce que je viens donner mon adoration vite fait entre le petit-déj et le repas? Ou est-ce que je viens avec un respect, la sainte crainte que je dois à Dieu qui est un feu dévorant? Et là, on était aussi là, On était aussi dedans. Dans Malachie, on voit aussi, c'est pareil. On a lu Malachie cette semaine. C'est pareil, dans Malachie, ils dénoncent les mêmes choses. Ils disent, oh, mais ça sert à rien, en fait, de rendre un culte à Dieu. Ça sert à rien. Bon, on va le faire, mais ça sert à rien. Viens, on amène notre vieille brebis galeuse pour Dieu. Et puis, on garde la belle pour nous-mêmes. Ils ont plus compris. Ils ont plus compris. Et ce mari pieux aussi qui assistait tous les dimanches et il priait pour que sa femme se convertisse et quand il rentrait chez lui, il lui tapait dessus pour qu'elle croie en Jésus-Christ. L'apparence, quand ça s'est su, l'apparence. Malheureusement aussi, cette église qui prospérait, un pasteur qui était bien vu, une église qui avait plein de personnes, des dons, et on a appris que ça faisait 4 ans que le pasteur trompait sa femme. Une église qui s'est effondrée. L'apparence. La certitude de faire mieux. De se créer quelque chose. Et Jésus dénonce que eux-mêmes, finalement, n'écoutent pas et ne respectent pas les pères. Et c'est ça qui est beau avec Jésus, hein, qui fera la meilleure exégèse que n'importe qui sera le meilleur prédicateur que n'importe qui, c'est qu'ils retournent leur faute. Ils disent, toi, tu respectes pas les pères. Pourquoi tu fais pas la tradition? Et Jésus remonte à Moïse et dit, vous, en fait, c'est vous qui ne faites pas. Vous avez créé d'autres choses, mais ce que Moïse a dit, ce que Isaïe a dit, donc ce que Dieu a dit, vous le faites pas. Vous faites ça pour votre profit. Et du coup, vous pouvez plus faire ce qu'on vous a demandé. Et c'est pour ça que quand il dit Corban, dit parce que Jésus ne s'arrête pas qu'à la lavage de main, il dit Moïse a dit honore ton père et ta mère. Et à l'époque, ça voulait dire prends soin de tes parents quand ils vieillissent. À l'époque d'Israël. Quand ces lois ont été données, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de retraite. Des personnes qui vieillissaient, ben, elles n'avaient plus rien. Et si les enfants n'en prenaient pas soin, dans le sens de les honorer comme eux-mêmes ont été pris en charge par leurs parents, ils devaient prendre en charge leurs parents, leur donner de quoi vivre, les prendre chez eux s'ils ne pouvaient plus bouger. Et ça se fait beaucoup encore en Orient, hein, beaucoup moins en Occident. Hein. Nous, on les met dans des endroits où on les voit moins. Mais ça, c'est la société qui cache... Mais là, pas du tout, il dit, tu prendras soin de ton père, tu l'honoreras, et tu vivras de vieux jours. C'est le premier commandement avec une promesse. Et là, Jésus, il dénonce ça, pourquoi? Parce que, et c'est là où on va appuyer, pour montrer l'hypocrisie, et voilà pourquoi il est assez violent dans ses propos, en disant, hypocrite! Ce que vous faites, c'est pas bien. Parce que Corban, ça vient du grec Corban ou Corbanas, qui est un don offert à Dieu, un trésor sacré. C'est le mot qu'on trouve aussi à propos des pièces d'argent de Judas. Quand Judas rend les pièces aux prêtres, ils disent on peut plus le mettre dans le trésor. Parce qu'elles sont tachées de sang. Donc on va acheter le champ. Et Corban, ça vient du mot hébreu Corban, en hébreu qui veut dire offrande, oblation, sacrifice. Et si on regarde le mot Corban en hébreu, Corban, c'est tout le Lévitique. Quasiment. Offrande, 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 sacrifice, oblation. On le retrouve beaucoup dans le Lévitique et dans Nombre. C'est un terme qui est très présent parce qu'il est lié aux offrandes à Dieu pour les péchés. C'est quelque chose, voilà, qui... Et dans le passage, certains pharisiens, et c'est ce que dénonce Jésus, il dit pas que les 3 ou 4 personnes qui sont venues là font ce qu'il a dit. Il dit, c'est en général, c'est ce que vous en faites. C'est ce que vous en faites, vous tous, pharisiens, qui créaient des commandements d'hommes, parce que ils n'avaient pas envie de prendre soin de leurs parents pour leurs vieux jours. Ils n'avaient pas envie forcément de venir en aide. Des fois, ils étaient assez riches, et ils disent, non, mais je vais pas me taper un fardeau, quoi. Ah, mon vieux père, ma vieille mère, oh là là. J'ai pas envie de les aider. Alors, ce que je vais faire, je vais créer quelque chose de saint. Ah, je pourrais t'aider, là, avec cet argent. Mais tu vois, ça, c'est consacré à Dieu. Donc, du coup, je peux pas t'aider. Donc, il cesse d'honorer son père et sa mère, pour soi-disant honorer Dieu, en disant donner à Dieu, c'est important. Quand on dit j'ai donné à Dieu, c'est le don de Dieu, c'est mon offrande, c'est mon sacrifice pour Dieu, c'est important ça, et c'est bien vu, et c'est même bien de le faire. Mais là, c'est fait au détriment de personnes qui en ont besoin. Et Dieu, il avait prévu une éthique saine, en disant ne me permettez pas à vos parents de tomber dans la déchéance, au point de mendier ou de tomber plus bas que terre. Vous en prendrez soin. C'est ça le sens du commandement. En plus de les honorer toute leur vie, mais d'en prendre soin quand ils sont plus âgés. Parce que ça, c'est Dieu, il voit et il donne dans un sens de ne pas avilir l'être humain. L'avilissement de l'être humain. C'est-à-dire le faire plus bas qu'un être humain. C'est l'inverse de tous les autres. Le but de Dieu, c'est d'honorer sa créature. La laisser dans un statut honorable. Et certains religieux, ils voulaient pas le faire, ils voulaient plus le faire. Et leur cœur était alors transformé. Au lieu d'aider et de comprendre la loi de Dieu, ils la transformaient en disant, je vais le donner pour la fin. C'est-à-dire ça, c'est la partie que je vous avais réservée, mais en fait, je la réserve pour Dieu. Et du coup, je peux pas vous aider. Mais ce sera avec plaisir. Mais je peux pas le faire. Et c'est là où Jésus va les reprendre. Parce que, en remettant l'argent à Dieu, ils font bien. Autour d'eux, on dit, waouh, ils vont donner tout cet argent pour Dieu. Waouh, ils vont enrichir le trésor. C'est des gens bien. Ils ont une plus-value. Et derrière, leurs parents sont démunis. En mettant de l'argent pour Dieu, ils se faisaient voir. Mais ils perdaient le point de vue essentiel de la loi. L'amour et le respect du plus faible. C'est quelque chose qui traverse toute la Bible. Prendre soin de l'orphelin, de la veuve et de l'orphelin. L'amour et le respect du plus faible. En apparence, ils étaient pieux et de généreux donateurs. En apparence, ils avaient, waouh, ça, c'est des gens que je veux imiter, ils ont des belles paroles, ils ont plein de bonnes choses. Mais dans leur cœur, ils avaient rejeté l'essentiel de la loi, l'essentiel de la substance même qui était l'amour. Et c'est pour ça, ils ont oublié. Ils renient, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force, qui est l'amour. Et c'est pour ça qu'il est très sévère, Jésus, à leur égard. Une fois qu'on sait tout ça, on se dit, waouh, effectivement. Ils utilisent les commandements d'hommes pour leur propre cœur. On veut d'écouter Dieu, ils disent, ça c'est trop dur à faire, j'ai pas envie, on va faire d'autres choses. Alors nous comprenons la sévérité de Jésus à leur égard. Ils préfèrent écouter leur cœur tortué, parce que leur père avait des cœurs tortués. La tradition a été construite par des personnes des fois très intelligentes, très pieuses, mais qui avaient un cœur tortueux, plutôt que le cœur de Dieu qui lui est pur de toute chose. Et ils font tout bien en apparence, mais leur cœur est froid et calculateur. Jésus ne va pas leur reprocher de se laver les mains, mais va reprocher leur attitude de cœur. Il va dire, vous vous êtes lavé les mains pour manger, c'est très bien, mais ceux qui ne le font pas, vous les condamnez. Sans connaître leur cœur. Vous dites, comme ils ne l'ont pas fait, c'est des gens qui ne méritent pas de s'approcher de Dieu. Et plusieurs fois, c'est ça qu'il va reprendre. C'est-à-dire qu'ils refusent l'amour, la compassion, parce que les gens n'obéissent pas à ce qu'ils ont dit. Donc ils annulent le commandement de Dieu. Ils annulent la nécessité d'aimer par leur volonté de cœur. Et du coup, leur cœur est loin de Dieu. Il est loin de cette volonté première. Et il faut un cœur pur, travaillé par l'esprit, on l'a entendu dans les témoignages. L'amour qu'on se porte, c'est un amour qui vient de Dieu. Parce que notre amour à nous, il est calculateur. Notre amour, il est froid. Un commandement d'homme est plus facile à mettre en œuvre, car il répond à la dureté de notre cœur. Les religions d'hommes sont parfois faciles à suivre, parce qu'on n'a que des choses à cocher. Et une fois qu'on les a cochées, on fait le calcul, on est bon. Mais suivre Jésus, c'est difficile, parce que ça va à l'encontre de notre cœur. C'est toujours difficile de le faire. Parce que continuellement, comme on l'a chanté, continuellement, on est obligé de travailler notre cœur. Et en plus, il leur dit, vous devriez être puni de mort. Vous venez, vous, me juger sur le lavage des mains, vous devriez mourir. Parce que Moïse a dit, celui qui honore pas son père et sa mère, qu'il soit mis à mort. Parce que c'est grave de pas honorer. Et il dit, vous êtes des morts vivants, en fait. Vous avez maudit vos pères, vous avez maudit vos parents, vous jouez des règles, et vous, ou drapé de piété. Hypocrite. Voilà pourquoi le mot est très fort. Hypocrite. Et après, il leur dit, vous faites beaucoup d'autres choses semblables. C'est-à-dire qu'ils avaient rajouté à des choses plus faciles. Dans une des écoles, qui était l'école d'Iliel, une des écoles assez larges du pharisianisme, si ta femme faisait brûler le petit déjeuner, tu pouvais divorcer. Ça y est, allez hop. Et il y a des maris faisaient exprès. Ils venaient une demi-heure en retard. T'as loupé le déjeuner, du coup je peux partir. Ou toi tu peux partir. Et ça devenait n'importe quoi. Ça devenait n'importe quoi. Sous prétexte de piété. On oublie finalement l'amour. Et parfois c'est aussi notre cas. Malheureusement. Nous avons tous nos luttes, nos combats. Mais nos cœurs ont toujours besoin d'être modelés selon Christ. Et selon le regard que nous portons sur l'autre, n'est pas souvent un signe de notre piété d'apparence. Et parfois, je suis bien hypocrite. En préparant ce message, je l'ai vu. On agit en bon chrétien devant l'assemblée. Puis quand on rentre, non mais laisse tomber. Ah lui, et puis lui, et puis lui. Et puis tu dis, mais comment tu te comportes? Ou au travail, comment tu te comportes? Est-ce que c'est ça la manière de dire? Est-ce que c'est ça la manière de faire? Est-ce que je suis un bon chrétien toute la semaine ou je suis ce chrétien sous-marin? Et parfois on est faible face aux tentations. Et après on vient là puis on annonce la parole de Dieu. On dit, mais qui tu es en fait? T'es un gros hypocrite. Mais en avoir conscience, c'est ça. Reconnaître. Sinon, c'est impossible. Personne ne pourrait venir ici parler et prêcher. Ce serait impossible, parce qu'on est tous des hypocrites. Mais la reconnaissance de notre hypocrisie, qui ne l'excuse pas, mais demander à Dieu de nous pardonner nos cœurs si durs pour qu'alors on relève la tête et Dieu nous pardonne. Il a dit, il nous a pardonné nos péchés, aussi grands qu'ils soient. Et c'est ça, la lutte chrétienne. C'est pas dire, je suis le surchrétien. Waouh, je peux tout faire. C'est non, j'ai ma faiblesse, que j'ai mes luttes. Priez pour moi, mes frères. Nous avons tous nos passages difficiles, mais venons avec nos faiblesses, et le Seigneur les prend pour nous. Et surtout, avançons dans la sainteté. Avançons dans la sainteté. C'est pour montrer que parfois le raisonnement du pharisianisme, il est pas mort avec le en 70. Et nous, avec les occidentaux, parfois on juge ces hommes d'une hauteur. Qu'est-ce qu'ils sont, ils ont rien compris. Et on fait pareil, en fait. Mais parce que nous-mêmes, on a besoin. Le cœur qui animait ces gens-là est le même que le nôtre. Parfois, on joue avec les versets. Pour se dire, oui, là, il y a ça, mais bon, dans une autre traduction, il y a ça. Et finalement, ça passe. Je me construis mon petit évangile et ma petite foi, et ça passe. Je suis pas vraiment... Voilà, Dieu y connaît, hein, c'est le cœur. Mais la grâce de Dieu peut nous libérer de nous-mêmes et de nos commandements d'hommes. Que ce soit nos commandements, que ce soit les commandements qu'on a eus, qu'on a pensés, ce qu'on a construit dans nos têtes. Et ça s'arrête pas là, parce qu'après, voilà ce qu'il va dire. Après, il se tourne vers la foule. Marc 7, 14, 16. Jésus, voilà, il leur dit ça, il leur dit qu'ils sont hypocrites, puis il dit, ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, alors là, il s'adresse à toute la foule, il lui dit, écoutez-moi tous, et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui, en entrant, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà, Jésus, il met une mise en garde publique. Et en fait, les pharisiens sont visés parce que c'est eux qu'on cherchait un peu les ennuis. Mais en fait, il vise tout le monde, là. Il appelle la foule, il dit, en fait, vous êtes tous pareils. Les pharisiens sont en vue parce que c'est eux qui sont un peu en conflit avec Jésus. Mais il dit pas, vous, il y a que eux. Parce qu'on a l'impression que, il y a que eux. Moi, si je suis pas eux, peinard. Non, il dit toute la foule. Tout le monde est comme ça. Il dit, c'est l'homme. Il généralise cette pratique à tous les cœurs, tous les hommes, tous les femmes. Jésus relativise la propreté des mains et les ustensiles, mais également les nombreux bains rituels faits à son époque pour la pureté. Il dit pas que c'est pas bien, mais il va demander une pureté de cœur. Et c'est ça sur laquelle il va s'arrêter. Parce que c'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme. La Bible le dit souvent. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est ça qui le rend impur. Ce qui rentre, qui vient de l'extérieur. Mais le cœur à l'intérieur, c'est le péché sous toutes ses formes. Il y a des spécialistes de stratégie qui disent la pire chose à faire, c'est les 5 piliers quand vous avez une ville fortifiée. Vous attaquez des 4 côtés et vous avez quelqu'un à l'intérieur. Et il dit, l'homme, c'est pareil face au péché. On est soumis à la tentation de partout, mais à l'intérieur, on a un ennemi qui est notre ancienne nature. Et il faut le savoir, il est là. Et c'est cette 5e colonne qui ouvre des brèches vers l'extérieur. Et si on est régénéré en Jésus-Christ et si c'est le Saint-Esprit qui le garde, cette brèche, elle n'existe plus. Ou elle existe moins souvent, jusqu'au jour où elle disparaîtra complètement. Mais c'est en Jésus-Christ, c'est l'action qui nous purifie. C'est pour ça, marcher dans la sanctification, c'est ce qu'on avait vu un peu avant, la semaine dernière, dans Hébreux. Il faut marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est une mise en garde valable aujourd'hui. Mais il faut qu'on soit prêt à entendre. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Est-ce qu'on est prêt à entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre? Ce qui va nous remettre les choses en place en disant « Ouais, mais moi j'ai toujours fait comme ça. » Je discutais des fois avec des frères qui se mettaient souvent en colère et je trouvais que c'était vraiment de la grosse colère. C'est vraiment effrayant. Hein. Et je me disais « C'est dommage, est-ce qu'on en a parlé? Est-ce qu'il pourrait changer? Ah non, il est comme ça. » Ah bon, il s'est converti, il était en colérique, donc maintenant il reste colérique. Je me dis « Mais attends, ça tient pas debout. Donc si quelqu'un se convertit, il est voleur, il reste voleur. » Mais non, on a tous appelé à changer en Jésus-Christ. Je dis pas demain, je dis « Mais il faut travailler dessus. » Et c'est notre cœur, est-ce qu'on est prêt à entendre? On le voit hein, dans la suite dans la suite de Marc, mais aussi dans Luc 6, 45, il dit « L'homme tire de bonnes choses, de bons trésors de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Comme dit et entendu, notre cœur et notre adoration, il imite ce que nous adorons. Ça, c'était le sujet de la semaine dernière. Qui j'adore ? Si je m'adore moi-même, ben, ça va être une foi de moi-même. Si j'adore Christ, je vais être prêt à changer de cœur. Soit nous approchons de Dieu par Jésus-Christ, marchant dans l'humilité, prêt à changer, soit nous jouons avec la Bible, à la manière de certains spécialistes de la loi. Aujourd'hui, ils ont changé de... C'est plus des pharisiens, mais aujourd'hui, vous écoutez des fois de certains prédicateurs, malheureusement, ben, ils changent l'ordre des phrases, ils prennent un verset par-ci, un verset par-là, et ils créent tout un nouveau truc, tout un commandement d'homme. Ou soit on obéit à notre cœur et nous sommes alors sauvés par Christ. Et dans 2 Timothée 3, 1 à 4, et ça c'est l'avertissement que Paul donnera à Timothée, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Et c'est ce qu'avaient fait les pharisiens. Ils avaient l'apparence de la piété, mais reniaient ce qui en faisait la force. Et la force de l'évangile, si un jour vous avez un doute sur quelque chose qui est dit, la force de l'évangile et la force de la Bible, c'est l'amour que Dieu porte à sa créature. Si on transforme cet amour en autre chose, dans le sens du jugement, dans le sens de l'isolant, là ils isolaient leurs parents, ils jugeaient les gens qui étaient pas comme eux, ils classaient les gens par pureté. Toutes ces règles qu'ils ont créées, qui classent, qui catégorisent, qui transforment, c'est des choses dont faut se méfier. Parce qu'il y a que deux catégories pour la Bible. Ceux qui ont cru, ceux qui vont bientôt croire, j'ose espérer. Et il fait une liste qui, on se retrouve, hein. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Je pense que ça traverse toutes les époques. Et il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi? Parce qu'on risque de leur ressembler. Et moi, comment je vis au quotidien? Qui est aux commandes de ma vie? Quels sont les commandements auxquels j'obéis, en fait? Et est-ce que mon cœur est prêt à être travaillé tous les jours par Dieu? C'est difficile, mais le Seigneur nous aide. Je vais dire quelque chose de terrible, mais quelque chose quand même de vrai, c'est qu'au travers le mariage et la famille, c'est là où le Seigneur nous reprend le plus. Où il montre à quel point on peut être accroché à des petits trucs qui sont pas forcément des commandements de Dieu. Et donc c'est pour ça, après on est obligé de travailler le pardon. Positionnons-nous nous-mêmes quelques instants, est-ce que je suis ce que je suis? Ou bien je suis une image trompeuse de ma vraie nature, ça c'est chacun qui doit y répondre. Que le Seigneur puisse nous aider.